RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG pour les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, c'est parti pour 3 heures de discussion, on vous attend bien sûr au 32-16. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, le trio avec Joël Dagosséry, la coach de vie, bonjour,
bonjour
Joël.
Bonjour à tous.
Charles Consigny, l'avocat et des nôtres, bonjour maître.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec l'éditeur de bande dessinée Mourad Boudjelal qui est encore là, qui est toujours avec nous, bonjour mon cher Mourad.
Pourquoi encore là, je vais être viré.
Non, c'est toi qui.
Non, mais savoir si.
S'il y a peut-être un courrier que je n'ai pas reçu,
c'est
récemment.
C'est toi qui.
Non, mais dites-moi,
qui
veut te faire virer de la France. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-moi-le, c'est le moment, je suis prêt à tout entendre.
Eh bien, justement, Mourad, puisque tu.
Bonjour à toutes et à tous.
À tout entendre, on va revenir sur ta sortie de la semaine dernière qui a fait des millions de vues, qui a provoqué beaucoup de réactions. Le coup de gueule de Mourad Boudjelal alors que nous étions en pleine déclaration de revenus.
Encore trois.
Quoi ?
Trois déclarations. Et je me casse.
Ah oui ? Voilà.
C'est aussi simple que ça.
À 15 ans, tu veux dire ?
Ouais, je me suis dit, ouais, encore trois à faire. Et puis c'est fini. On
Pourquoi
ira.
Tu casses ?
Parce qu'il y a un moment, ça devient confiscatoire. Ça devient aussi agressif. Ça devient omniprésent. On est dans un pays où malheureusement, on est plus taxé si on crée de l'emploi que si on fait de la bourse. C'est ça surtout qui est insupportable. Et on ne mesure pas à côté tous les sacrifices dans une vie. Et j'estime qu'aujourd'hui, ça devient hors norme. Et qu'en contrepartie, les prestations qu'on a à côté sont ridicules. On a l'addition d'un 3 étoiles pour le résultat d'un routier.
Il nous parle d'égalité, de liberté, de fraternité. Mais à chaque pas qu'on fait, faut raquer sans hésiter. On paye pour naître, on paye pour vivre. Et même après la mort, faut encore contribuer. Alors pourquoi rester dans ce pays qui nous saigne, où le fruit du labeur finit dans leur magouille pleine? C'est pas étonnant. Beaucoup veulent fuir, parce qu'ici bosser c'est juste mourir.
Encore trois déclarations et je me casse, mon cher Mourad, on va revenir sur ses propos.
Mourad, c'est vrai que ta déclaration a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui t'applaudissent en disant c'est vrai qu'en France, on n'en peut plus, on paye trop d'impôts et trop d'impôts tuent l'impôt en quelque sorte. Et puis d'autres qui disent bah non, c'est pas patriotique de quitter la France. Certes, il y a peut-être trop d'impôts, mais bon, Mourad, il a réussi, il vit bien. Il faut qu'il fasse un effort comme les autres et donc pas question pour lui de quitter la France. Ça serait mal vu.
Mais pourtant, il faudrait d'abord que les gens comprennent tous les sacrifices lorsqu'on n'est pas gagnant du loto, tous les sacrifices qu'il faut faire dans sa vie pour, entre guillemets, réussir, parce qu'on réussit pas toujours. On prend en exemple ceux qui réussissent, mais on oublie souvent ceux qui ne réussissent pas, qui ont fait les mêmes sacrifices et qui se retrouvent endettés à vie. Et là,
Joël, c'est ça.
Et là, je peux vous dire que l'État n'y est pour rien. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, j'ai décidé de prendre ma retraite, mais pas parce que j'allais arrêter mes activités, mais pour des raisons de fiscalité. J'ai payé dans ma vie, sans vous donner de détails, mais des impôts en millions d'euros. D'accord ? En millions d'euros. J'ai droit à 1148 euros de retraite. Voilà. 1148 euros. C'est-à-dire que, avec ce que j'ai cotisé, j'aurais préféré, à rigueur, on en parlera peut-être tout à l'heure, faire une capitalisation. Je possède une entreprise, je possède des SCI. 80% de mes prélèvements sur mes comptes en banque, il y a marqué DGFIP, Direction Générale des Finances et des Impôts Publics. 80%. 80% de mon courrier, c'est Trésor Public. 80% de mon activité quotidienne en ce moment, c'est répondre à des questions, répondre à des contrôles. Je ne sais pas, mais À un moment, les gens qui créent de la richesse, les gens qui créent de l'emploi, il faut peut-être les récompenser pour qu'ils aient envie d'en créer plus et de créer plus d'emplois, plutôt que leur sans arrêt les stigmatiser ou les ostraciser et les pointer du doigt comme les responsables de tout. Alors le côté patriotique, je l'ai, parce que je peux vous dire que des impôts et que j'en ai beaucoup payé.
Mais t'aurais pu partir il y a longtemps.
Il y a très longtemps que j'aurais pu partir. Et je suis très à l'aise pour vous dire, je n'ai aucun compte à l'étranger. j'ai toujours payé
attention,
mes
heures. Parce que le dernier politique a dit ça, les yeux dans les yeux.
Je suis très à l'aise.
En fait,
je suis très à l'aise. J'ai hésité à un moment, non, je ne l'ai pas fait et j'en suis très content.
Je n'ai jamais eu, je n'ai pas, ni maintenant, ni avant.
Ni maintenant, ni avant. Je suis très à l'aise avec ça. Bien sûr qu'il faut payer des impôts dans un pays. Bien sûr. Mais à un moment, je veux dire, si c'est travailler pour manger et se loger, ça s'appelle de l'esclavage.
Mais que réponds-tu à ceux qui vont te dire, très bien, mais avant de devenir riche, tu as profité aussi de l'État-providence, de la solidarité nationale, de ce que la France met en place en termes de santé, d'éducation, puisque c'est gratuit, mais c'est gratuit parce que on cotise tous, on paye tous des impôts, et qu'une fois que tu as fait fortune, c'est peut-être trop facile de se barrer, quoi, en fait.
Mais non, absolument pas. Je crois que on y a contribué. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans l'esprit des gens, ils ne voient pas la valeur de la contribution. C'est comme pour la retraite. C'est-à-dire, si un mec qui a cotisé 100 millions sur 2 ans, il vaut moins qu'un mec qui a cotisé 100 000 sur 40 ans. C'est ce qui est le montant pour lequel on a cotisé qui est important. Moi, je pense que j'ai largement contribué, et j'en suis content. J'en suis content. Mais à côté de ça, j'ai perdu beaucoup de ma vie. J'ai foutu ma vie en l'air. J'ai foutu ma vie en l'air. Qui va me rembourser?
Ça a été un choix aussi pour toi.
Non, parce que tu montes dans un train et tu sais pas que le train il a pas d'arrêt quoi et qu'il s'arrête
Et tu vas partir où alors? Où est-ce qu'on paye moins d'impôts?
Moi je sais à peu près où je vais partir. Je vais partir aux États-Unis quoi. Bien sûr.
Aux États-Unis on paye moins d'impôts.
Bah je pense qu'on paye moins d'impôts j'en suis sûr et je vois tous mes potes qui sont partis vivre là-bas leur train de vie ça a rien à voir avec celui de la France. Je voudrais juste terminer sur ce que je disais. Je suis monté dans un train. Au bout d'un an, on m'a expliqué, j'étais au courant de rien, moi. On m'a expliqué que j'allais avoir mon premier contrôle fiscal. J'avais un an d'activité. Au bout d'un an et demi, je me suis fait exploser. Alors moi, je pensais que j'avais fait une faute. Non, c'est parce que j'avais créé trop d'emplois. Donc, il y avait à l'époque un truc qu'on appelait la taxe professionnelle qui a disparu, qui a été remplacé. Et moi, j'ai cru que ma taxe professionnelle, je comprenais pourquoi elle a explosé. Ah non, mais monsieur, vous avez créé trop d'emplois. Alors, j'espérais plutôt une récompense que truc. Et entre-temps, il y a une période de ma vie où j'ai décidé d'arrêter de créer des emplois et de capitaliser en bourse. Et j'ai été 10 fois moins imposé. Je me suis dit, ce système est aberrant. On n'encourage pas ceux, parce que c'est quand même la richesse, l'emploi, c'est ce dont ce pays a besoin.
Alors, comment vous réagissez, mes chers Angel, à l'exil fiscal programmé de Mourad Boudjelal?
J'ai entendu l'intervention de Mourad quand il a dit encore trois. Et j'ai trouvé ça vraiment cocasse, en fait, se projeter à travers le nombre de déclarations qu'on aura encore à remplir. Et le jour où tu as dit ça, c'était le jour, je crois, où je faisais ma déclaration. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ah tiens, ben, encore combien de déclarations, en fait? Ça m'a vraiment interrogée et j'ai trouvé, en fait, l'analogie très, 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 très forte. Moi, pour ma part, je vais vous dire, j'ai un dilemme concernant ça. J'ai souvent dit ici que j'envisageais de partir. Oui, complètement. Et j'ai un dilemme. Pourquoi? Parce que, je l'ai aussi raconté ici, j'ai eu des difficultés dans ma famille. On a aussi réussi à tenir le cap grâce aux aides sociales, grâce aux assistantes sociales, etc. Et donc, quelque part, j'ai ce qu'on dit, ce truc-là, de se dire...
T'es redevable?
Oui, et je considère que je suis redevable. Et d'ailleurs, toute ma motivation, pas toute, mais en tout cas une partie de ma motivation était de me dire, ok, comment tu vas rendre ça? Et je me rappelle encore au début de Hollande, je me disais, le jour où tu vas payer plus d'impôts, ce sera quand même une fierté, ça veut dire que tu auras bien travaillé, et ça veut dire aussi que tu reverses une partie de ton travail à ton pays qui t'a beaucoup aidé. Et vraiment, ça faisait partie, et même je me rappelle, je me disais, et tu auras vraiment réussi quand tu créeras des emplois. Je peux vous dire que cette façon de penser est en train de se renverser pour une simple et bonne raison. C'est ce que Mourad a dit, c'est que de l'autre côté, je veux participer à mon pays, mais parce que je sais que ce pays fournit une qualité de service à ses citoyens, à moi, mais pas qu'à moi, mais aussi à ses citoyens. Et le mal-être de ce pays, quand j'entends des profs, moi, dans ma famille, il y a des profs, quand j'entends ce qu'ils gagnent, quand j'entends des policiers, quand j'entends du personnel hospitalier, la justice, dernièrement, je me dis, mais en fait, je suis en train de me faire arnaquer. toi, t'as une belle pensée, t'as une pensée de oui, contribuons, on va alimenter le pays, et puis ça va reverser de toute façon aux personnes qui gagnent un peu moins que moi, elles vont être loties, etc. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Fonctionner comme ça, et c'était très bien, mais ça ne fonctionne plus comme ça.
Oui, mais
ça
je vais aller comme plus loin, ça, Joël, en prélevant moins
Joël,
d'impôts.
Joël, je vais aller plus loin. Le pays est dans un tel état qu'aujourd'hui, l'impôt, il sert en priorité à arroser les copains. Et j'ai pas peur de le dire, à travers des commissions qui ne servent à rien et qui replacent tous les gens. Et j'ai juste une chance, et je le dis, que tous nos auditeurs l'entendent bien. Le pays est tellement endetté. Et moi, je vous donne un conseil. C'est sortez votre pognon de France. Sortez votre pognon de France aujourd'hui, parce qu'on va vous le prendre. On va vous le prendre bientôt. Il n'y aura pas d'autre issue que soit créer un impôt. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Regardez sur le gasoil, sur l'essence.
Toi, tu dis, l'argent.
Ils sont en train de nous le prendre. Regardez sur l'essence, sur le gasoil. Avec ces taxes qui augmentent sans arrêt. C'est une façon détournée de nous prendre notre argent pour compenser la mauvaise gestion et la dette. Parce qu'ils savent très bien que s'ils vont taper sur les comptes en banque, il y aura la révolution. Mais à un moment donné, il n'y aura pas d'autre choix tellement le pays est mal géré et endetté.
Mais c'est pas antipatriotique, pardon, de partir.
Chaque fois qu'on crée
quand on a un gros champion, c'est un champion qui est parti, qui s'est exilé, qui a réussi soit aux États-Unis, soit ailleurs, et on se dit, ah, c'est un Français, il a eu tel prix, ah, c'est un Français, il a réussi dans tel sport, etc. Et ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire briller la France, tu dois te barrer? Ben voilà. Excuse-moi, j'irai faire briller la France un jour, d'ailleurs. Tout simplement.
Argent, parce qu'on va vous le prendre soit par des créations d'impôts incessantes, soit à un moment donné, il faudra taper.
Ça, c'est vrai que la campagne a à peine démarré que déjà des candidats à l'élection présidentielle proposent d'augmenter des impôts.
Mais c'est une façon de nous voler notre argent.
On a reçu la semaine dernière Raphaël Glucksmann qui a dit, alors bien sûr c'est toujours les plus riches, donc comme ça ne concerne pas, tu dis bah oui très bien, allons-y, taxons. Bon, enfin c'est quand même des augmentations d'impôts.
Quand tu es riche à 4000 euros, je peux te dire, ça va vite tomber sur toi. Hein.
Charles Consigny.
Alors, au risque de vous surprendre, je suis un petit peu partagé sur cette question, parce que au fond, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment besoin d'habiter en France pour bénéficier de tout ce que la France a à offrir à ses nationaux. J'ai autour de moi un grand nombre de personnes, parce que malheureusement, c'est un vrai phénomène, hein, notamment chez les trentenaires, en gros, trentenaires quadragénaires, de quitter la France. J'en ai beaucoup qui vivent à Londres, qui vivaient jusqu'à peu aux Émirats Arabes Unis. Bon,
c'est moins sympa à Dubaï.
C'est moins. C'est plus bruyant, on va dire.
En tout cas, avant que l'Iran ne balance des drones sur Dubaï, si vous voulez, ils habitaient là-bas. C'est simple, il n'y a pas d'impôt du tout. Donc ça, comme ça, c'est clair. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de charges sociales, il n'y a pas de taxes X et Y inventé pour dissimuler des hausses d'impôts, il n'y a pas d'impôts du tout. Il y a, je crois, 5 ou 7% d'impôts sur les sociétés, c'est tout. Donc, effectivement, moi, je me sentais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un peu comme un citoyen soviétique. J'avais l'impression d'être de l'autre côté du rideau de fer, quand même, quand je voyais leur vie par rapport à la mienne. Je les voyais au volant de leur Range Rover, se faisant des restos hallucinants, voyageant en business. Et moi, je disais, je peux pas, j'ai une Peugeot parce que je donne tout au socialisme. Donc. Et en même temps, ces mêmes gens viennent, ils ont mal aux dents, ils vont chez le dentiste rue de Passy à Paris. Ils ont un cancer, ils vont à la Riboisière à Paris. Ils prennent des vacances d'été, ils viennent en Provence. Ils prennent des vacances d'hiver, ils vont dans les Alpes. Et ils ont envie de faire quelques boutiques, restos, un peu. Ils viennent à Paris. Bref, ils retrouvent leur famille. Donc, au fond, quel intérêt pour eux, fiscalement, d'être en France? Aucun. Et c'est ce qui me fait quand même penser que, même si je les comprends, parce que je suis le premier à dénoncer ce système soviétique, et qu'au fond, je ne leur jette pas la pierre, mais c'est ce qui fait que je suis un peu partagé, parce que je trouve que c'est quand même aussi courageux de rester et d'essayer au moins de changer les choses si on le peut, d'essayer de pousser, de bouger le truc si on le peut.
Il faut
en tout cas, moi, j'aimerais quand même qu'on crée. Je trouve qu'il y a quand même une inéquité, une inégalité assez énorme entre les Français installés à l'étranger et ceux qui sont en France. Et je trouve qu'il faudrait qu'on soit quand même très strict sur la question de la sécurité sociale, sur tous les
services. La santé,
Exactement.
Ça dépend combien tu as cotisé dans ta vie. Il y a des gens qui ont quitté le pays, qui ont quitté le pays, qui ont cotisé plus que des gens qui sont.
Mais il y en a plein qui ont quitté à 25 ans, ils ont rien cotisé du tout.
Et est magnifique, est superbe. Je veux dire, peux-tu m'expliquer pourquoi il n'y a aucun pays dans le monde qui cherche à limiter?
Mais
pendant longtemps, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, pendant longtemps,
On s'est targué d'avoir le meilleur système de santé.
On a le droit. Oui.
Et en disant, regardez, la France, quand même, on est bien soigné. Allez aux États-Unis, allez aux
urgences, et tu verras.
On sera moins bien soigné. Non, mais c'est vrai que pendant longtemps, et c'était sans doute vrai. C'est vrai qu'on se disait, il faut mieux tomber malade en France que dans la plupart des pays,
même des pays riches.
Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vas
avec
aux urgences et que tu attends 6 heures pour une entorse, c'est vrai que tu te dis, finalement, notre modèle que tout le monde, que tout le monde semble-t-il nous envier, c'est pas le cas.
J'avais un auditeur qui a appelé la dernière fois pour dire qu'il avait été, que son enfant, je crois, était victime de violences sexuelles. Et c'était, il disait ça date de 2013, je crois, et c'est toujours pas jugé. C'est ça la justice française? 13 ans. Il y a des tas de gens qui jouent sur les délais de la justice aujourd'hui. Énormément. Les urgences, l'école, rien ne marche. Rien ne marche. Et moi, je vous le dis qu'aujourd'hui,
on ne peut pas dire rien ne marche.
Ça marche.
Moi, j'invite notre
ministre à aller aux urgences. Ministre de la Santé, à aller aux urgences. Bon, c'est pas nécessaire qu'il mette un masque que personne ne connaît. Qu'elle aille aux urgences aujourd'hui. Je lui propose les urgences de l'hôpital Sainte-Muse à Toulon. Qu'elle y aille.
Mais le sud, c'est un autre monde.
Elle va arriver à 14h. Si tu as besoin d'une prise de sang à 14h, tu vas voir les résultats à 23h. En France, 7e puissance mondiale, il faut presque 12 heures pour avoir les résultats d'une prise de sang. Si tu arrives à 14 heures aux urgences, on va commencer à s'occuper de toi à 20 heures. Sauf si tu commences à menacer le personnel. Il y aura deux solutions, parce qu'il y a des vigiles maintenant. Soit on te vire, soit effectivement ils vont avoir peur si tu es un peu persuasif et on va s'occuper de toi.
Alors, coup de gueule.
Ça, c'est la réalité de la France.
On commente le coup de gueule de Mourad Boudjelal, encore 3 déclarations et je me casse. Joël, elle est déchirée. Elle ne sait pas encore. Elle est partagée dans un instant.
Elle est un peu moins riche que Mourad.
Un peu beaucoup moins.
Ça ne veut pas dire que j'aime pas la France. Ça veut dire que je n'aime pas le système qui a été mis en place par nos dirigeants. C'est différent. Cette oligarchie.
Ne demande qu'une chose, c'est de rester.
Bien sûr.
C'est Cédric qui est chef d'entreprise, qui nous appelle Delin, qui réagira. Marie-Ève aussi, qui est formatrice du côté du Haut-Rhin. Est-ce que vous partagez le coup de gueule de Mourad ou au contraire, non. Quand on a profité aussi du système français, on reste et on paye, même si on paye beaucoup. 32-16 pour en discuter avec les GG, il est 9h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, je donne la parole à Cédric dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler que ça y est, depuis vendredi, la Coupe du Monde de foot a démarré. N'oublie pas qu'on a la prime de match. La prime de match, c'est parti d'une cagnotte de 30 000 euros et on y ajoute 500 euros à chaque fois que des buts sont marqués. On est à 49 000 euros, la cagnotte prime de match.
Et la France n'a pas joué. Hein.
Et pour la gagner...
Merci aux Allemands qui ont marqué beaucoup de buts, qui ont augmenté cette prime.
Et pour la gagner, au moment du top inscription, vous enverrez but par SMS au 7-32-16. Vous serez comme ça dans le fichier. Il y aura des centaines et milliers de numéros de téléphone. À tout moment, on pourra vous appeler. Et si vous donnez le montant de la cagnotte, là, aujourd'hui, en attendant les matchs de demain, et 49 000 euros, cet argent sera pour vous. Je vous donnerai le top inscription. Restez bien à l'écoute.
Vous allez compter le but de la Côte d'Ivoire.
But par SMS au 7-32-16. Cédric, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'avoir patienté. Qu'est-ce que vous dites à Mourad ou qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'a dit Mourad?
Je lui dis bravo. Moi, ça fait 3 ans que j'ai une SARL, donc on a la chance de connaître une belle croissance à 3 chiffres depuis 3 ans. Alors, au prix de mon mariage et au prix de beaucoup de sacrifices personnels, financiers, etc. Et j'attends qu'une seule chose, c'est de gagner suffisamment d'argent pour tout délocaliser. Je fais du e-commerce et là, je fais le dos rond. Je me tais, je paye en silence. Et je sais que mon comptable le sait aussi, dès que je vais pouvoir arriver à un niveau où je vais pouvoir exporter une partie de mon activité, je vais le faire. Et pourtant, Dieu seul sait si j'aime mon pays, si je suis fier, si, etc., etc. Mais en fait, c'est un délire complet. C'est un délire complet. Et je suis dans la période la plus difficile. C'est faire le dos rond, payer et en même temps essayer de se développer en étant optimiste. C'est compliqué, on y arrive. Mais moi,
Cédric, vous avez des enfants ?
Eh ben alors, j'allais y venir. On a adopté avec ma femme une fille il y a 3 ans.
Elle vous connaît ou elle vous reconnaît pas quand vous rentrez à la maison tard le soir?
elle me reproche souvent.
Oui.
Elle me reproche souvent de pas être là pour elle.
Bien
mais
sûr.
Je vais même aller plus loin dans mon raisonnement. C'est qu'elle a des gros problèmes, notamment de comportement, etc., dû à son parcours très compliqué. On essaye d'avancer. Si on suit le parcours officiel de l'État, etc., etc., c'est 1 an et demi, 2 ans d'attente. Ou alors faut passer en libéral et un bilan avec un psy, c'est 750 balles.
Ouais. Et surtout, c'est que vous avez bien compris que vous avez pas le temps nécessaire à lui accorder à cause
de... Je suis bien d'accord.
La semaine de 35 heures, vous savez pas ce que c'est.
Oui, mais enfin, ça, Morad, dans n'importe quel pays, c'est pas...
Moi, là où je veux en venir, c'est
qu'on se fait assassiner. Il y a des pays qui reconnaissent ça. C'est ça que je
veux. Ce que je veux dire, c'est qu'on se fait assassiner au mois le mois, et qu'en face, on a même pas la possibilité de pouvoir aider notre fille décemment.
Mais ce qui veut dire, Cédric,
vous faites partie de ceux qui contribue au système, mais qui en récolte pas beaucoup de fruits. Il y a 40% en France, en gros, c'est 60% des Français qui touchent plus que ce qu'ils donnent. Ils le savent pas forcément, mais ça, il faut quand même le dire. Bah oui, quand même. Et il y en a 40%
qui
c'est l'inverse, effectivement, vous allez être plus débiteur que créditeur.
Non, mais
plutôt créditeur.
Cédric, reste avec nous pour écouter Marie-Ève, qui est formatrice en anglais. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Ils nous appellent du Haut-Rhin. Vous partagez le coup de gueule de Mourad et celui de Cédric aussi ou
alors,
pas
moi, alors je suis partagée parce que moi, l'expérience à l'étranger, je l'ai eue. Moi, j'ai vécu 5 ans au Luxembourg, 10 ans en Irlande, j'ai travaillé aux États-Unis et j'ai fait le choix de rentrer en France il y a 5 ans. Mm-hmm. Je suis ravie d'habiter en France. Il y a énormément de choses que j'aime dans ce pays, j'aime mon pays profondément, mais je suis résignée. Je suis résignée aujourd'hui à payer des impôts, à payer mon URSSAF, parce qu'en auto-entreprise, les 25% d'URSSAF, quand ils passent tous les mois, je peux vous dire que ça fait quand même mal, même si on gagne bien notre vie. Donc voilà, je suis...
Et vous comprenez pourquoi vous payez beaucoup d'impôts ?
Oh bah, cet argent, il est très mal utilisé et ça me met dans une colère noire. Mais qu'est-ce que je peux faire ? C'est pour ça que je suis résignée, parce que je ne vais pas quitter la France de nouveau. Enfin, voilà, c'est bon.
Vous êtes déjà un peu en Allemagne ?
Oui, mais je ne vais pas aller vivre en Allemagne non plus, j'y vais faire mes courses. Mais
qu'est-ce qui vous a fait revenir de ces pays-là ? La France vous manquait ?
Oui, la France me manquait. Moi, je suis rentrée en France juste après le Covid. Et voilà, on a une qualité de vie, malgré tout ce que les gens disent, on a une qualité de vie en France quand même exceptionnelle. Moi, je suis ravie d'habiter ici. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me plaisent en France. L'Alsace, c'est une super région. Donc voilà, je ne vais pas repartir à l'étranger. Donc le choix de Mourad de partir, je peux le comprendre. Je trouve ça complètement fou d'être autant taxé. Enfin, C'est complètement insensé. On ne met pas en valeur le travail et je trouve ça fou.
Mais justement, vous êtes quand même d'accord pour dire qu'il y a un malaise dans ce pays.
Tous les entrepreneurs,
même vous allez les restaurateurs, n'importe tous les gens qu'on rencontre, ils se plaignent complètement.
Je suis d'accord avec vous, Mourad, et vous avez eu l'opportunité de bien réussir, de bien gagner votre vie. Vous avez créé de l'emploi, c'est formidable.
C'est beaucoup de travail et de sacrifices, vous savez. Je peux vous dire que ça n'a pas été simple et ça a même été très, très, très dur. Moi, j'ai eu des soirs où je pleurais tellement c'était dur.
Les gens, ils n'entendent pas ça. C'est pas possible pour des gens qui gagnent 1400 euros par mois, qui galèrent, de vous entendre presque vous plaindre parce que vous avez gagné trop d'argent et que vous payez trop d'impôts. Je le comprends, moi. Mais d'un point de vue extérieur, c'est difficile à comprendre et c'est difficile à dire que, à un moment, les rats quittent le navire parce que
les gens confondent gagnant du loto, héritier et personnes qui sont parties de zéro ou voire même de négatif et qui se sont battues. Et les très peu qui ont réussi, parce que vous avez beaucoup d'handicaps à ce moment-là. On peut pas les mettre dans le même panier.
Moi qui n'ai pas encore réussi.
Pas encore.
Ils m'ont enterré.
Toi aussi, tu auras droit à être racketté par le fisc.
Moi, je considère que si tu gagnes que 1400 euros et que justement tu reposes sur les services publics entièrement, c'est-à-dire que t'as pas d'argent pour aller dans le privé ou quoi que ce soit. T'as envie quand même que ceux qui payent des impôts, que cet argent te revienne de manière qualitative. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui se reféodalise. Je suis désolée. C'était quoi le Moyen-Âge ? C'était tu dépends d'un seigneur, tu dépends de son bon vouloir, qui prend soin de toi, etc. Quand j'ai voulu refaire mon passeport, il y a un an ou deux ans, comment c'était hyper compliqué d'avoir un rendez-vous. C'était 5 mois, 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous pour un passeport. Eh ben, vous savez quoi? C'est notre ancien collègue ici, Mehdi, qui m'a eu un rendez-vous parce qu'il connaissait quelqu'un Je veux dire, est-ce qu'on on doit, français, on doit tous en y arriver à ça? Quand j'ai voulu me faire opérer, là, c'était ici à Georges Pompidou, à côté. J'ai pas pu être prise en charge au bout de 8 heures d'attente aux urgences. J'ai dû rentrer en ville. J'avais mon médecin qui m'a fait un petit courrier pour qu'on me laisse passer. Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte que avec le nombre d'impôts qu'on paye, que je paye, que tout le monde paye, tu dois en plus connaître quelqu'un? Mais on est où là? On paye des impôts pour justement ne pas avoir à dépendre de privilèges. Voilà, c'était ça le contrat. Si chacun doit connaître quelqu'un pour échapper à cette horrible carte scolaire, pour échapper aux 8 heures d'attente aux urgences, pour échapper à 5 mois d'attente pour avoir une carte d'identité ou un passeport, bah je suis désolé, c'est pas rentable.
On paye aussi des impôts pour une forme. Joël, on paye aussi des impôts pour une forme de solidarité que je trouve tout à fait normale.
Mais moi aussi.
Pour faire en sorte que le maximum de Français vivent bien. Ça s'appelle la répartition. Vous avez l'impression aujourd'hui, avec la fiscalité qui ne cesse d'augmenter, que le maximum de Français vivent bien. Vous avez l'impression que votre argent, il est réparti.
Attendez, parce que
c'est pas ce sentiment.
Je remercie Marie-Ève d'avoir été avec nous, mais je voudrais qu'on écoute David, artisan parleur, du côté de la Gironde. Bonjour David.
Bonjour David.
Oui, bonjour.
Et bon, vous partagez le coup artisan, de gueule de Mourad ou pas alors?
Ah ben, mais c'est même pas que je partage. Je suis à fond d'accord avec lui, Mourad président, ça c'est sûr. Je voudrais juste te dire un truc. Tout le monde dit on a beaucoup d'argent, on paye beaucoup d'impôts. Moi, je suis parti de zéro.
Eh oui.
À l'âge de 13 ans, je mangeais encore dans les décharges publiques, donc c'est très très compliqué. Et j'ai 55 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 3 sociétés. Le problème, c'est qu'en fin d'année, je ne sais pas si je vais continuer. Je paye de plus en plus d'impôts. À l'URSSAF, on nous assassine de plus en plus. Là, je vais encore prendre une plus-value alors que j'ai rien changé par rapport à l'an dernier. Il y a rien qui change, que dalle. J'ai mon fils qui travaille dans l'éducation nationale, il a même été obligé de démissionner parce que il y a rien qui suit. J'ai ma belle-fille qui est dans le médical, c'est pareil, il y a rien qui suit. Alors moi, payer des impôts, je suis très content de payer des impôts. Mais au bout d'un moment, je paye plus d'impôts que je n'en gagne moi. Donc on fait comment? Je sais pas comment on fait, je sais pas comment on peut faire, et ça devient très compliqué. Donc maintenant, fin d'année, au début des élections, on verra qui passe et on verra si je reste en France ou pas. Voilà.
Et vous avez une
destination,
David? Ouais, voilà.
Pardon?
Où est-ce que vous pourriez partir?
Je sais pas, Espagne, Portugal. Vous voyez, j'ai un collègue à moi qui est une entreprise de bâtiment, pareil. Il arrête son entreprise. Il part au Portugal.
C'est l'araignée de la France.
C'est un projet d'immobilier et l'État lui finance 50% de son projet immobilier.
Ben oui, c'est l'araignée de la France, ça.
Pardon ?
Et c'est la réalité de la France. Et j'imagine.
Bien sûr.
Ce qui est paradoxal aussi, c'est que d'un côté, Joël a parlé de gens qui gagnent 1 400 € par mois. C'est tout à fait respectable. Et ceux comme vous qui vont gagner plus. Mais il y a quelque chose qu'on ne valorise pas, c'est la perte de vie. D'un côté, il y a des gens qui prennent des congés payés, qui peuvent se laver la tête parce que.
Mais là,
je suis pas parce que je suis désolé. Il y a des gens qui gagnent 1 700 € et qui ont aussi des vies très compliquées, qui se tapent 2 heures de transport le matin, 2 heures de transport, qui habitent au fin fond de la région parisienne.
La perte de vie, c'est que quand tu es dans la situation d'un entrepreneur comme lui, tu n'as pas de vie. Ta vie, c'est ton boulot.
D'accord.
Il y a que ça.
Moi, on va avoir du mal à pleurer parce que.
C'est prioritaire.
Oui, en même temps, c'était une passion, c'était ton investissement. Il y a des gens qui subissent leur boulot, qui se tapent des moyens de transport insupportables,
allez-y,
et qui à la fin touchent 1 700.
Oui, mais tu dois. Oui,
allez-y, David.
Juste dans le domaine, on est plus travail non plus. Dans le social. Donc dans le social, je suis très bien placé pour connaître le milieu défavorisé, etc. Et effectivement, il y a des gens qui galèrent avec 1 700 balles. Moi, je gagne 3 000 € par mois. C'est simple. Mes enfants gagnent très bien leur vie, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je travaille samedi, dimanche, de 6h le matin.
Vous travaillez 24h/24. Quand vous couchez, si vous avez un problème, vous couchez avec le problème.
Donc, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que maintenant, je gagne, je travaille pour payer les impôts.
Oui, c'est ça le problème. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça décourage à travailler plus. Voilà,
mais
c'est ça que vous êtes en train de dire.
Alors, attendez, David,
mis en place Charles, parce que Charles, il ne l'a pas dit à mon
avis. Non, mais de toute façon, on est tous d'accord. Moi, je vois quand même deux problèmes. C'est que, un, quand il s'agit de s'attaquer aux solutions de ce qu'on décrit tous et de ce qu'on déplore tous, à savoir la surfiscalité qui touche aussi les classes populaires, attention, parce que quand vous surfiscalisez tout un pays, quand vous surtaxez tout un pays, ça fait que la machine économique se comprime, tout ça tourne moins bien, et donc ça ruisselle aussi dans le mauvais sens du terme sur les gens qui ont des petits salaires. Ça empêche aussi les entreprises de recruter des nouvelles personnes, des nouveaux collaborateurs.
Et les rentrées fiscales baissent.
Ça empêche les entreprises de verser des salaires plus importants à leurs collaborateurs, parce qu'il y a cet écart entre le brut et le net que la gauche nous présente comme du salaire différé, mais qui, bon, à la fin, n'arrive quand même pas dans la poche des gens. Et effectivement, comme le dit Joël, en matière de salaire différé, c'est-à-dire de service public, il y a malheureusement maintenant mieux ailleurs dans le monde.
Ils pourraient le dire eux-mêmes.
Mais moi, je vois quand même une chose, c'est que quand on essaye de réformer vraiment, c'est-à-dire typiquement la réforme des retraites, par exemple, on voit bien l'espèce de psychodrame que ça crée dans le pays. Donc, tout est une question de rapport de force politique. C'est-à-dire que si ces idées-là deviennent majoritaires, s'il y a un vrai mandat du peuple pour changer tout ça, ça pourra changer. Mais si en fait les idées de la gauche, etc., restent complètement imprégnées comme elles sont aujourd'hui,
j'ai pas entendu un candidat. Là, il y en a beaucoup déclarés, une trentaine de candidats déclarés. Il n'y en a pas un seul, même à droite, qui nous promet de baisser les impôts. À droite, ils disent on touchera pas aux impôts. Et à gauche, ils disent, on va augmenter les impôts sur les plus riches. Il n'y en a aucun qui arrive en disant, on va baisser drastiquement les impôts. Parce qu'effectivement, ça repose trop sur le travail. Et qu'aujourd'hui,
c'est surtout que, au-delà des impôts ou à travers tout ce qu'on dit, c'est ce que tu payes pour ce que tu as. C'est dans les programmes pour le moment. Voilà.
C'est clair.
Personne ne dit comment rendre l'État plus efficient ou plus efficace. Faire en sorte que ça aille mieux pour l'éducation nationale.
Passer à 40 heures de travail hebdomadaire.
Ouais, c'est peut-être moins d'État surtout. Parce que toi, tu pars du principe que l'État doit forcément être très puissant. L'État doit se désengager de ses missions et se concentrer sur la justice. On l'a vu la semaine dernière.
L'éducation, la santé,
sur la police, l'armée, l'éducation et le reste. L'éducation, je rappellerai quand même qu'il y a 20% des parents d'élèves qui mettent leurs enfants dans le privé. Même l'éducation,
c'est tout, il y a un problème.
Je dis simplement c'est surtout efficient là où l'État est.
Alain, ce sont surtout de mauvais choix économiques que ne pas miser sur la consommation. Moi, je suis intimement convaincu que tu gardes la même fiscalité. Tu passes le litre de gasoil à 1,30, tu auras exactement les mêmes rentrées fiscales qu'à 2 euros. Parce qu'à 1,30, les gens, ils vont rouler, ils vont consommer. Et tu vas retrouver, et tu vas retrouver les mêmes recettes fiscales. Mais on est dans un système de fiscalité où tout est fait pour que la consommation soit réduite, et ils comprennent pas.
Merci.
En réduisant la consommation, ceux qui gagnent par l'augmentation d'impôts, ils le repèrent immédiatement.
Merci à tous d'avoir témoigné au 32-16. Merci aussi à David, l'artisan carreleur du côté de la Gironde, d'avoir été avec nous. On aura sûrement l'occasion de reparler ensemble.
Oh oui.
Serez-vous prêt, les impôts, seriez-vous prêt à quitter la France pour en payer moins? C'était le coup de gueule de Mourad. On va voir si vous êtes d'accord avec lui, oui ou non. Qu'est-ce que vous en pensez? Quitter la France, est-ce que c'est antipatriotique? Vous dites non à 73%. Allez, dans un instant, on s'en fout, on s'en fout
pas. C'est passé là, oui.
Restez avec les GG, avec les grandes gueules.
Soyez prêts à payer plus.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Avec les GG, avec les grandes gueules, c'est en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est avec Joël Dagosséry, avec Charles Consigny, avec Mourad Boudjelal. Il est 10h-20, 10h-15 même, c'est long, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Saints.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Kylian Mbappé, le mal aimé. Oui, le capitaine des Bleus a accordé une longue interview aux Parisiens aujourd'hui. Entretien réalisé par ses proches et sur un potentiel avenir politique en fin de carrière. Et il répond, devenir président de la République un jour, pas mal de gens me disent ça, mais ce n'est pas dans mes projets, je suis déjà assez détesté comme ça. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël? Charles?
On s'en fout à moitié.
Mourad?
On s'en fout pas.
Joël?
Je sais pas
on
pourquoi.
Je...
Oui, peut-être, on revient. On air.
Elle était déjà partie un peu dans sa tête.
Non, parce que je m'explique pas cette détestation de quelqu'un qui a fait briller la France, qui continue de la faire briller, quoi qu'on en dise. Moi, je regarde, il y a quand même une distorsion entre ce que les gens racontent en ligne et la vérité de... Là, on a vu l'accueil, par exemple, des Bleus quand ils sont arrivés à Boston. Et on a bien vu que le nom qui était le plus scandé, c'était celui de Mbappé. Donc, moi, c'est cette détestation de la réussite. À un moment, en fait, en France, il y a un seuil de réussite que tu ne dois pas dépasser. Tu peux réussir, mais attention, il faudrait nous dire exactement quel est ce seuil, parce que juste un peu au-dessus, c'est fini, t'es détesté, tu deviens un salaud, t'es égoïste, machin. Donc, moi, je pense que c'est contre-productif de cracher sur nos champions.
Il y a une campagne vraiment anti-Mbappé, ouais, même dans la presse, pardon. Même ici, même à RMC.
Mais parce qu'il leur faut.
J'entends certains le soir sur RMC Sport tenir des propos contre Mbappé. On est dans le bashing pur et simple.
Ah bon,
c'est dingue. Bah oui, quand Daniel Riolo, ce qu'il dit sur Mbappé, enfin, on oublie.
Mais il leur faut un vilain.
On oublie qui est ce joueur, ce qu'il nous a apporté. Et c'est effectivement, je suis assez d'accord, on aime bien cracher sur ce qu'on a aimé.
Ouais. Mourad.
Pour moi, Mbappé, c'est un des deux, trois meilleurs joueurs du monde. Je suis très fan. Je vais vous raconter une anecdote, c'est peut-être ça qu'on lui fait payer. Vous savez, lors d'un tournoi de jeunes, Mbappé devait avoir 10 ou 11 ans, donc il y avait un tournoi de détection. Il y avait tous les agents, les plus gros agents du monde qui assistaient au tournoi, et donc il y a match, tout le monde, tous les jeunes sont comme des fous. Et il y a un petit garçon qui est resté sur le côté. Il avait 10 ans, ou 11 ans, je ne sais plus. Et il y a un journaliste qui vient voir les agents, qui lui dit... Tu dis, mais pourquoi il est sur le côté, là, le petit garçon? Pourquoi il joue pas pour montrer un peu tout ce qu'il sait faire? Et on lui dit, ben, le petit garçon, là, qui s'appelle Kylian Mbappé, tu as L'Oréal, tu as le Bayern, tu as Manchester, tu as Barcelone, qui ont déjà fait une proposition de contrat à 11 ans. Ils sont tous sur lui, donc il a même pas besoin de toucher un ballon. Il a même pas besoin de se montrer. Tout le football le veut. Parce qu'il est un surdoué. Et je crois qu'en France, quand tu arrives à être surdoué au niveau de Mbappé, on t'en veut. On t'en veut aussi quand tu écris, quand tu tweets un petit ange parti trop tôt, on t'en veut aussi quand tu quittes ton club et que derrière il gagne la Coupe d'Europe, on lui en veut aussi quand on perd une Coupe du Monde alors qu'il a eu, je sais pas, mais contre l'Argentine, je veux dire, bah Mbappé n'a même pas été grandiose. Ah bah il était stratosphérique. Voilà, donc pour moi je stime qu'aujourd'hui.
Il y en a qui lui reprochent son côté un peu arrogant parfois.
Mais c'est pas vrai. Je veux dire. Dès que tu réussis, t'es arrogant. C'est simple, ça va ensemble. Tu réussis, t'es arrogant. Mais je te dis, il y a un seuil. Par exemple, t'es un artisan, là c'est bien. Tu réussis, on est content. Par contre, tu passes chef d'entreprise, tu passes à créer des emplois, etc. C'est fini. T'as dépassé la limite de la réussite. Donc moi, je pense que Mbappé a dépassé la limite de la réussite depuis très longtemps. Je pense qu'on lui doit beaucoup et qu'on ferait mieux de le soutenir, surtout en ces périodes-là, plutôt que de lui cracher dessus.
Il est d'une grande popularité parce que Mbappé à la sortie d'un stade, c'est l'émeute.
Oui, mais
l'émeute.
Sans doute le français
l'analyse
le plus connu.
L'analyse de Charles Consigny, on attend.
Écoute, moi, je m'en fous un peu, mais
s'en foutait, hein, donc,
je n'ai rien contre Mbappé.
Il n'existe pas à moitié, c'est oui ou non.
Sauf qu'il ne manque pas d'alacrité. ça, c'est pour Alain, mais il n'a pas entendu. Non. Et tant pis pour lui. Et non, il se la pète, faut dire les choses comme elles sont, mais il a peut-être des raisons de le faire. Moi, je préfère un mec qui se la raconte, mais qui a des raisons de se la raconter, à quelqu'un qui se la raconte sans raison, et il y en a quelques-uns. En revanche, se projeter comme président de la République, c'est pas parce qu'on sait mettre la baballe dans le.
Mais justement, on lui pose la question.
C'est une question dans le but qu'on est mûr pour négocier avec Vladimir Poutine.
Façon maintenant à temps.
On espère tous qu'il sera adulé à la fin de la Coupe du Monde.
Voilà. Ce qu'on attend, c'est de voir la Coupe du Monde.
Voilà. Je crois que j'ai jamais vu un match avec Mbappé pour.
Ah bon?
On enchaîne, Anaïs.
Non, c'est Mbappé qui n'a jamais fait de match avec Charles Consigny.
Je le regarde jamais.
Bon, les GG.
Allez, Anaïs.
C'est un passage souvent redouté, hein, l'épreuve du bac philo ce matin pour les élèves de terminale. Alors écoutez les sujets sur lesquels les candidats ont dû disserter. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Voilà, sujet de dissert numéro 1 pour la filière générale. Ou alors, peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas?
On l'est surtout quand les autres ne le sont pas.
Pour le bac techno, écoutez, ça c'est pour vous les GG. Débattre, est-ce chercher la vérité? Ça fait 22 ans qu'on essaye dans les GG, on l'a toujours pas. Et puis un autre sujet pour les candidats du bac techno, la technique peut-elle être mauvaise? un mot,
ça vous
Mourad.
Inspire ou pas?
Non, non, non. La philo, c'est un domaine où il faut poser des questions et jamais apporter des réponses, donc ça ne m'intéresse pas.
Ah bon,
Joël?
Moi, j'aimais bien la philo. J'ai eu une moyenne note. J'ai eu 13, je me souviens, au bac. Non, mais je plains les professeurs.
Parce que tu devais écrire bien.
Qui vont, oui, j'écrivais bien.
Lisible.
Je pensais bien.
C'est pas le fond qui a.
Je pensais bien. Si, si, je pensais très bien. Et j'étais en techno aussi. Enfin, j'étais en STT. Et donc, c'était pas le niveau d'une L. Mais néanmoins, je plains les profs qui vont devoir corriger les copies avec des SA, SA au lieu de CA et ils croivent et d'autres. et d'autres joyeusetés.
Quoi que là, normalement, l'accent doit être mis sur l'orthographe, la syntaxe et la grammaire. Hein, sinon, ça aurait été plus sévère.
Est-ce que débattre, Charles, c'est chercher la vérité?
Je crois quand même, regarde dans cette émission, on arrive quand même à certains consensus. Là, tout à l'heure, on a commencé l'émission par un consensus assez large.
On cherche pas la vérité, on cherche à avoir raison, ce qui est totalement différent.
On était entre les auditeurs. On arrive quand même à certains constats objectifs à force de dépiauter certains sujets. Je pense que la question de ce matin sur le poids des impôts en France, etc., c'est quand même très difficile de dire. Qu'on paye pas assez d'impôts en France, par exemple. Voilà. Je pense quand même qu'il y a des débatteurs de bonne foi. Moi, j'essaye de l'être.
On termine.
Et puis les GG, on revient au mondial, on s'en étonne à chaque Coupe du Monde. Eh bien, on ne va pas déroger à la règle encore cette année. Encore les images des Japonais qui étonnent ici en France les supporters nippons que l'on a vu hier nettoyer leur tribune. Sac poubelle à la main à la fin du match Japon-Pays-Bas à Dallas. On s'en fout ou pas, Joël? C'est les seuls à faire ça. Hein. Charles.
On s'en fout pas.
Mourad.
On s'en fout pas.
Joël.
Non, mais comme on est des crados, nous, c'est sûr que ça nous étonne toujours des gens qui nettoient derrière eux, qui font la queue en ligne avant de prendre le métro, qui laissent tout le monde descendre. Mais j'ai écouté néanmoins une émission sur le Japon et sur le recul quand même économique du Japon qui expliquait que justement cette société très disciplinée cachait un manque de prise de risque. Et que justement, ils étaient en recul à cause de ça. Donc, ne pas idéaliser non plus tous les comportements, parce qu'ils sont aussi un peu dans la mouise, comme nous.
Ils sont voilà. Donc, nous, on est crades.
On en est crades, et en plus, on recul économique.
On est crades, on prend pas de risques, et on est dans la mouise. Eux, au moins, ils comprennent.
Charles.
C'est quand même une civilisation remarquable, d'aucuns diraient supérieure à la nôtre. J'ai à côté de chez moi une boulangerie japonaise. Tenu par de la japonaise. Ouais, qui fait du pain de mie, c'est très branché, c'est dans le marais, tout ça. Il s'appelle Carré. Ouais. Et ils font un pain de mie japonais.
Oui, oui, c'est bon. Exceptionnel ça.
Et j'arrive toujours au téléphone. Moi, je suis au téléphone quand je vais dans les commerces. Un, parce que j'ai des choses à faire. Et deux, parce que je n'aime pas parler aux commerçants. Je les salue ce matin, je déteste faire la conversation, donc je reste au téléphone.
Même et si alors, personne ne bouge.
Déjà, les commerçants français, ils ont du mal. Déjà, tu sens que tu les agaces. Ouais. Mais alors, les japonais. J'ai vraiment l'impression que je viens de balancer des bombes atomiques.
Non.
Il me regarde comme si j'étais un barbare absolu. Eux, ils font les choses très très bien. Les sandwichs sont absolument parfaits. Le pain de mie est parfait. Mettre ça dans un petit sac, machin, vachement bien. Et moi, je suis là, ouais, alors, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et ça les exaspère. Donc, je leur rends hommage. Mais j'avoue que j'ai ce plaisir un peu pervers à être le connard de français, tu vois, qui en a rien à foutre de rien, qui respecte rien. Ça, c'est aussi notre panache.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, la deuxième heure, on va évoquer le téléphone au volant. Déjà 500 suspensions de permis immédiate. 4 départements sont passés, vous savez, à cette sanction. Ah, voilà, ça marche bien.
Ça, c'est la France qui marche.
Est-ce qu'on doit généraliser, oui ou non? On en parlera au 32-16. Et puis, cette petite phrase de Xavier Bertrand hier sur BFM TV. Il est difficile de vivre en France quand on est musulman, juif ou pas blanc de peau. Est-ce que Xavier Bertrand a raison? C'est au 32-16 que ça se passe. Il est 10h05. Reste avec nous sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.